Amis trésistes, bonsoir. Nouvelle émission 13 Passions, commentée par Roger Bouichou et Denis Arcas, qui n'est toujours pas là, mais Roger est là. Heureusement, il sauve les meubles, comme d'habitude. Bonsoir, Roger.
Bonsoir, Elian. Bonsoir, tous nos auditrices et auditeurs. Rassurez-vous, vous allez voir Denis dans quelques secondes. Vous savez que Denis est un homme précieux et très sérieux, puisque chaque fois, chaque vendredi, avant l'émission, il prend 20 minutes pour se maquiller, rouge à lèvres, le bleu aux yeux,
et tout de manière
présentable devant le téléphone. Ah oui, non, c'est quelqu'un de très sérieux. Ah ouais. Alors, nous allons avoir aujourd'hui un spécial comité de l'ordre du rugby à 13 avec M. Rodriguez, Jacques Rodriguez.
Je l'appellerai quand il y aura Denis, non ?
Oui, mais je pense que Denis ne devrait pas tarder.
Bon, mais j'espère.
Oui. Alors, d'abord, la première information que l'on va vous donner, c'est que le match entre Carcassonne 13 et le RSC Saint-Gaudens est reporté pour terrain impraticable suite aux fortes pluies qui sont tombées. Et donc, on veut conserver l'état de la pelouse du stade à Verdonnec. Donc, le match est reporté. Donc, ce qui fait que vous n'aurez qu'un seul match demain, évidemment, hein, parce que dans un premier temps...
Dimanche.
Demain, il y a un match demain. Limoux qui s'en va à Villeneuve, mais bon, nous ne serons pas là pour vous le faire. Hein. Et ensuite, le match, à l'origine, avait été reporté, car dans un premier temps, au dimanche, puis définitivement annulé. Voilà. Donc, vous n'aurez que à l'antenne notre ami Jean-Claude Bousquet, l'homme du Feuceleux. Et quel match ? Feuceleux, 13-4, Saint-Estève 13 Catalan. On se rappelle que Saint-Estève 13 Catalan avait pris une sacrée rousse trois semaines avant, mais là, c'était très bien repris. Alors attention, hein, ça va être très difficile. Bon, chez eux, l'équipe de Super League de Lézignan, hein, avec tous les joueurs qu'ils ont, devrait quand même s'imposer. Mais enfin, c'est pas évident. Donc, vous pourrez le suivre sur 101.3 de Radio Merciette, et ensuite vous pouvez le suivre sur le site YouTube de Lézignan 13. Voilà, est-ce que nous avons Denis ?
Il arrive. Il est en chemin. Je l'ai. Ça y est,
il n'est pas pressé.
Je viens de le connecter. Voilà, Denis,
il est pas pressé. Si il déconnecte beaucoup, le Denis.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Denis.
J'étais en train de dire que avant de venir à l'émission, évidemment, tu étais un homme sérieux, tu te maquillais, tout rouge à lèvres, le bleu aux yeux, de manière à te présenter devant le téléphone. C'est bien ça?
Oui, parce que bon, depuis nous sommes filmés et tout, on peut nous voir en direct, donc voilà.
Les
ravalements de façade, ça coûte cher. Hein, ça.
Surtout qu'il faut plusieurs couches.
Exactement. Excusez-moi, j'avais ma montre j'étais tranquille parce que ma montre me disait que c'était pas encore 18h. Et bon, heureusement qu'Elian a été là pour sonner la sonnette d'alarme.
Voilà. Très bien. Alors, comme je disais, Denis, nous allons avoir un spécial comité de rugby à 13 avec le président. Tu as retenu le nom, Denis, du président du comité de rugby à 13.
Oh, mais je connais ton accent, je te laisse le prononcer.
Oui, c'est ça.
Tu vas me dire que Monsieur Rodriguez,
Jacques.
Vous avez Monsieur Rodriguez en ligne.
Eh, voilà, toi, c'est bien fait. Monsieur Rodriguez, bonjour.
Bonsoir, messieurs.
Oui, bonsoir, Rodriguez.
Et merci de nous accueillir en tant que comité. C'est très gentil de votre part.
Non, mais c'est normal, vous savez que bon, Radio Marciette, la radio rugby à 13, donc c'est le 13 en général, voilà. Mais, alors vous êtes, on l'a déjà dit, on vous avait déjà reçu, puisque c'est le nouveau président du rugby à 13. Alors, la nouvelle saison a commencé, alors exactement, bon, on ne sait pas trop, les gens me disent, il y a un comité, mais oui, il y a un comité dans le rugby à 13, il fonctionne avant, et qu'est-ce qu'il fait?
Alors, c'est vrai que
fait ce comité de l'ordre du rugby à 13?
Ce comité de l'ordre est extrêmement actif. Déjà, la vocation d'un comité, c'est de s'occuper de développer les écoles de rugby, de participer à la recherche de nouveaux petits joueurs et effectivement d'accompagner toutes nos écoles dans leurs efforts de formation. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a quand même pas mal travaillé, puisque on a quand même mis en place cette année, puisque ça a démarré le 15 novembre, la première formation BP, brevet professionnel BP-JEPS, rugby à 13 dans l'Aude. Ça n'est jamais arrivé, donc on a 8 étudiants qui ont démarré, c'est un niveau bac, hein, mais un niveau professionnel, c'est un contrat qui est fait en alternance avec les clubs. On a donc 8 candidats, peut-être un 9e qui va démarrer également. Et la chance qu'on a eue cette année, c'est que ce projet, on a pu le monter en partenariat avec le CREPS, qui s'est occupé de la structure des cours, avec la mairie de Carcassonne, puisque le projet se fait à tout Carcassonne Olympique, à côté de Domecq. Et tous les clubs de l'Aude ont participé, puisqu'on en a 3 de Lézignan, 2 de Lézignan, 1 de La Grasse, on en a 2 de Limoux, on en a 2 de Carcassonne, 1 de Ville-Gaillen, un de Poma. Donc vraiment, on est très très heureux de pouvoir mener à bien ce projet. Donc vous voyez que déjà, c'est toute cette dimension formation qui est importante pour notre rugby, on y travaillait dessus depuis 2 ans et le projet démarre, puisque c'est un projet qu'on va continuer au fil du temps, évidemment.
Donc comment ça, pour continuer justement dans cette formation extrêmement intéressante, est-ce que vous pouvez encore aller plus loin dans le développement? Moi, ça m'intéresse de savoir comment ça marche en termes, vous avez dit, les cours du CREPS. Alors, les jeunes, quel âge ils ont? Comment ils suivent les cours? Enfin, c'est tout ça qui, pour les parents qui éventuellement nous écoutent pour l'avenir, ça peut être intéressant.
Alors, les jeunes travaillent dans le cadre d'un contrat qui est un contrat en alternance. Ce qui veut dire que le club les embauche. Ce sont pour la plupart des contrats d'apprentissage qui sont des contrats aidés, puisque la plupart des jeunes qui ont adhéré à cette formation sont des jeunes qui ont entre 18 et 20 ans. Donc tous ces jeunes-là bénéficient d'un contrat aidé qui, avec des conditions financières extrêmement favorables pour les clubs. Et le gros avantage, c'est qu'ils travaillent pendant 2 jours en cours à Carcassonne, puisque on en avait déjà parlé, mais notre démarche était absolument de faire en sorte que tous les jeunes soient des jeunes en local formés sur place dans l'Aude, afin qu'ils puissent être en contact avec les différents employeurs, les différents intervenants sur du local. La finalité, c'est qu'ils trouvent du travail chez nous, quoi, qu'ils s'en aillent pas. Donc ça, on a réussi ce challenge-là. Et ensuite, le club, lui, met en place un contrat d'apprentissage. Et 3 jours par semaine, les jeunes travaillent dans le club. Ce qui veut dire que les jeunes travaillent 2 jours sur le plan scolaire à Carcassonne Olympique. Ce sont les intervenants du CREPS qui descendent. Et puis ensuite, pendant 3 jours, ils travaillent dans les clubs. Ils sont à la disposition des clubs. Donc là, c'est pour participer à la recherche de jeunes, si tant est qu'on puisse. Et c'est également pour pouvoir mettre en place participer aux entraînements, accompagner les éducateurs. On va aussi les former surtout ce volet sportif, puisque on a tout un volet rugby à 13 dans cette partie-là, qui est géré entre autres. Attendez, excusez-moi une seconde.
Oui, donc ça, c'est... Oui, je meuble un peu là.
Oui, excusez-moi.
Il n'y a pas de problème. Continuez. Allez-y.
Voilà. Donc, du coup, effectivement, on a toute cette dimension-là où le rugby à 13 vient compléter ce qu'on est en train de faire. Et ça se passe très, très, très bien. On a François Giovanni, qui est coordinateur pour toute la partie rugby à 13, qui lui est de Limoux et qui est également éducateur. Donc, tout un programme riche sur lequel on a beaucoup d'espoir. Parce qu'en réalité, si vous voulez, la finalité de tout ça, c'est qu'on forme des jeunes conforme de façon aussi homogène que possible au rugby à 13 et qu'on les amène ensuite à pouvoir apporter la bonne parole, on va le dire comme ça, dans tous les clubs autour d'eux. C'est vraiment un projet ambitieux, quoi.
Donc, voilà, l'objectif, excusez-moi de vous interrompre, l'objectif c'est de prendre un métier en relation avec le sport et avec le rugby à 13.
Exactement.
Exclusivement.
Après, en parallèle, si vous voulez, ils vont pouvoir également aller sur des sports collectifs et ils vont pouvoir faire évoluer leur brevet professionnel vers des métiers de la forme, parce que ça aussi, c'est une possibilité. Ils vont être formés dans des salles de sport. Beaucoup de choses sont ouvertes à MBP. Dans la mesure où MBP se fait un sport collectif, le nôtre est spécialisé en rugby à 13, mais il n'est pas, comment dire, dans l'évolution, il peut aller vers autre chose. C'est une espèce de bac pro sportif, si vous voulez, le BP.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer, même si c'est piloté par le comité de l'ordre, est-ce qu'on pourrait imaginer au fur et à mesure, pour le faire aussi grandir, peut-être que des accords avec d'autres comités au droit, le handball, le football, le basket, et qu'autour, enfin, je ne sais pas, ou est-ce que vous voulez rester autonome?
Il va se passer plusieurs choses. Dans la mesure où on est sur la logique de territorialité, il n'est pas exclu qu'un jour nous n'ayons pas assez de jeunes pour constituer une session, puisque un BP se gère, il y en a un tous les ans. Donc il y a de fortes chances, vous avez raison, que nous puissions être amenés à travailler avec d'autres sports collectifs, partant du principe qu'un tronc commun, c'est 80% de sports collectifs, et ensuite une partie spécialisation liée au BP qui est choisi dans ce cas-là pour nous le rugby à 13. Donc là où vous avez raison, c'est que on aura affaire à des profils qui seront plutôt polyvalents, qui seront capables d'animer des groupes, pas spécialement dans du rugby à 13, même si pour la plupart ce sont nos joueurs. Mais vous avez raison, ça fait partie de la démarche.
Très bien, Roger.
Oui, Denis, vas-y, continue.
Non, mais...
Voilà, alors, président, on va passer à un autre volet, parce qu'il n'y a pas que ça, quand même, comme activité.
Mais non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça, mais c'est énorme. Hein, ça, c'est vraiment...
C'est un beau projet, mais on a mis en parallèle...
Et surtout, très important, très important.
Oh là là, vous ne pouvez pas savoir à quel point, la formation.
Tout dépend de l'avenir de la formation, ça, c'est sûr.
Quoi qu'on fasse, quelle que soit la formation qu'on fera, dans la mesure où on apporte une nouvelle dimension à la façon dont on appréhende l'évolution de nos jeunes, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de les former au rugby, on leur donne des opportunités plus larges pour qu'ils puissent s'implanter dans la région et pour qu'ils puissent vivre dans notre région. Donc on va se donner peut-être aussi la possibilité de les garder dans nos clubs et pas de les envoyer à l'école à Toulouse ou à Montpellier ou à Perpignan, ce qui se fait la plupart du temps. Ça leur permettra à ce moment-là d'avoir une implantation et de pouvoir rendre quelque part, sous une forme ou sous une autre, ce qu'on leur aura donné à travers ces formations.
Et surtout que nos clubs, quels que soient les échelons où ils évoluent, ont besoin aussi d'avoir dans l'avenir, de se professionnaliser, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir des jeunes compétents, qui puissent, il faudra que les clubs aient les budgets, mais dans tous les cas, au moins pour les ceux d'élite 1 ou d'élite 2, pourquoi pas imaginer que ces emplois puissent demain se pérenniser dans ces clubs-là.
C'est tout à fait ce qui s'est passé dans ce cas-là, puisque, comme on les a cités tout à l'heure, les clubs de Pauma, les écoles de rugby, il y a Limoux, il y a Lézignan, il y a Carcassonne, il y a Ville-Gaillenc également, qui a travaillé dessus, il y a La Grasse. Toutes ces parties-là, qui sont toutes les composantes de l'Aude, ont tout adhéré au projet. Et c'est vrai qu'on a des BPJEPS qui sont pratiquement dans tous nos clubs. C'est extrêmement enrichissant parce qu'ils viennent en soutien des écoles de rugby. Et dans la mesure où on va les faire également travailler en accord avec la Ligue, avec le Pôle Espoir, on aura aussi la possibilité de leur transmettre de la meilleure façon possible, parce que le Pôle est quand même une école d'excellence, de leur transmettre la meilleure façon possible la façon dont on se comporte vis-à-vis d'un groupe de jeunes, comment on peut les former, comment on peut les faire travailler en rugby. Ils auront une formation très très complète. Donc j'espère qu'on saura en tirer les fruits à partir de l'an prochain, évidemment. C'était votre question.
Pour dire juste un dernier mot, je trouve que il est très important, alors je pense que vous le faites par ailleurs, mais je pense qu'il est très important que la communication soit faite, y compris par les clubs et par tout le mouvement 13 au doigt, pour vraiment, non seulement le pérenniser, mais et le faire grossir, enfin, je ne sais pas, après, c'est en fonction du nombre que vous pouvez accueillir, mais c'est vrai que c'est quand même Moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire et que les parents sachent partout, que dans toutes les écoles de rugby, partout, dans tous les clubs, que ça existe, parce que c'est vrai que ça porte une porte de sortie pour des gamins qui n'existaient pas, et ça, c'est important.
Non.
C'est une grosse nouveauté. Non,
vous avez raison. On est vraiment très fiers d'avoir réussi à la mettre en place, parce que ça a été un combat, mais par contre, on l'a gagné, et on partage les choses avec les partenaires qui le font avec nous actuellement, et tout le monde est conscient que c'est une belle page qui est en train de s'écrire. Bon, on est bien, il ne faut pas rêver, peut-être qu'on aura des années plus compliquées, mais la finalité aujourd'hui, c'est de pouvoir pérenniser cette histoire-là et faire en sorte qu'on mette en place un cycle de formation régulier. À partir de là, on gagne également en crédibilité par rapport à tous nos partenaires. Hein. On travaille avec le conseil général, avec les municipalités, ce sont des gens qui nous apprécient. Pour autant, si en plus on vient former nos jeunes à côté, quelque part, ça veut dire qu'on sait utiliser l'argent dont ils nous font profiter. Hein. Donc, ça fait tout ça, c'est un ensemble de choses.
C'est une excellente chose.
Non, mais c'est pas, on n'a pas fait que ça, parce que c'est toute une équipe. Hein,
Oui, je sais bien.
On n'a pas fait que ça. On a fait venir cette année, on l'a fait, il nous reste Carcassonne encore à faire. Il y a un projet qui nous tenait à cœur, c'était la communication sur les problèmes de pédocriminalité dans le sport, qui sont dont tout le monde parle. Donc on est allé un peu plus loin, on a fait venir une association qui s'appelle le Colosse au pied d'argile, qui est bien connu dans le monde du rugby parce que son président est un ancien joueur qui a joué en fédéral, mais qui a été, je crois, également joué en élite, enfin, à leur niveau, en niveau supérieur. Et c'est une association qui explique le message aux enfants, aux éducateurs et aux parents, de façon à ce que les uns et les autres comprennent les problèmes et les risques de la pédocriminalité, c'est les problèmes d'abus sexuels sur des jeunes enfants. Mais ça ne se traduit pas obligatoirement à travers des éducateurs, à travers des enfants, ça se traduit aussi vis-à-vis de la famille. Donc c'est tout un ensemble de choses sur lesquelles on a travaillé avec eux. Ils sont intervenus à Limoux, avec également les brigades de gendarmerie de l'Aude qui ont fait participer à ce projet, qui sont demandeurs. Ils sont venus avec nous également à Lézignan. On en a fait une partie à Lézignan au stade. Il y avait tous les présidents, on l'a fait également à la salle d'Ornaison l'après-midi. Et en février, le 18 février, on fera également la même journée, ce sont des journées, sur Carcassonne. On convie le matin les enfants, on explique les messages, les signaux, les éducateurs, les personnes qui sont là, dont c'est le métier de travailler avec eux. Et l'après-midi, ça concerne les parents et les éducateurs, qui nous permet de transmettre un message et de... On imagine toujours que ça se passera pas chez nous, mais parfois, on peut avoir des surprises. Donc, on fait en sorte que les uns et les autres puissent être vigilants et qu'ils sachent, si un jour ils rencontraient ce problème-là, à qui et comment, à qui surtout d'ailleurs s'adresser, puisqu'on leur met en place des relais. C'est une action qui était importante pour nous, parce qu'elle est à la fois sécurisante pour les enfants, mais également pour les parents. Donc voilà, ça a été assez mitigé parce que les gens ne sont pas habitués. J'espère que sur Carcassonne, on aura une adhésion plus importante de la part de tout le monde. On a beaucoup d'enfants et c'est vrai qu'au niveau des parents, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'on arrive à faire passer les messages.
Oui, comme vous dites, parfois on se dit que ça ne peut pas arriver. Donc c'est pour ça que souvent, même les parents... entre guillemets, n'en voit pas la nécessité, alors que malheureusement, on sait que ça peut arriver n'importe où.
Alors, c'est un peu en parallèle de notre sport, mais c'est en même temps le cœur du sport, puisque ça touche les enfants. Donc, c'est pas spécialement le volet sportif de l'histoire, mais c'est un volet important dans cet aspect formation et dans cet aspect pédagogique.
C'est très important.
On a fait ça également.
Oui.
Ouais. Et là, on est en train de préparer... je parle beaucoup, pardon. Hein.
Non,
c'est vrai qu'on a tellement de choses à
faire. Rosé vous a provoqué, là, avec l'entrée, vous avez raison.
Je suis bavard. Alors, c'est vrai qu'en parallèle, on est en train de préparer nos équipes de comité, et on a décidé cette année de doubler toutes nos équipes de comité. C'est-à-dire qu'on aura 13, on aura deux équipes.
Président, attendez, je vais essayer d'en placer une.
Qu'est-ce que vous entendez par toutes les équipes? Est-ce que c'est les sélections fédérales, juniors, cadets, minimes, hein? Expliquez-nous.
Ça concerne les minimes, donc les U13, les U15, pardon, les U17, donc les cadets, et donc U13, U15, en U13 et en U15, habituellement, nous avions des équipes de l'Aude. En U17, depuis un petit moment, il n'y a que des U17, ce sont les cadets, il n'y a que des équipes de ligue, puisque les équipes étaient souvent couplées avec ce que fait le pôle. On en a discuté en début d'année, on va remettre en place cette année les équipes cadets en équipe de l'Aude, de façon à élargir la base de recrutement des joueurs potentiellement de qualité, mais on va doubler les équipes en U13 et en U15, c'est-à-dire que chez les Benjamin et les Minimes, on va mettre les premières années des deuxièmes années, de façon à donner à un maximum de gamins la possibilité de participer à des sélections. Ça nous a semblé important parce que on trouve que sélectionner de façon très restreinte trop tôt, c'est dommage, on peut parfois passer à côté de jeunes qui ont envie et le seul fait de les sélectionner leur permettra peut-être de continuer à rester chez nous et puis de profiter et puis de grandir et puis finalement de devenir très bon, quoi, puisqu'un jeune reste un jeune, on ne sait pas comment il va évoluer par la suite. Hein. Oui. Voilà comment on envisage nos sélections.
Quand j'étais président du comité de l'Ordre, ça existait, la sélection cadet, là on faisait les intercomités cadet, je m'en rappelle.
C'est ça, tout à fait. Et on espère un jour, parce que c'est la finalité, pouvoir porter le projet jusqu'au fédéral. Hein. Parce que c'est cette histoire-là, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête très haut U17. Hein. Ça peut tout à fait aller sur les juniors nationaux et puis éventuellement sur les fédérales. Parce que les fédérales, si on arrive, si nous on le fait, si les Catalans le font, si les Tarnais le font, on aura peut-être un jour la possibilité d'avoir une vraie équipe. Puisque c'est la finalité quand même. C'était le souhait, je crois, il y a 2 ans. Comment ça avait émergé, ça, mettre en place une équipe fédérale au niveau national, mais pour ce faire, si ça part à partir de sélection départementale, ça permettra peut-être d'avoir une sélection plus fine.
Ouais, d'accord.
Donc vraiment utiliser le département comme une base de travail pour construire toutes ces équipes.
D'accord. Denis ?
Oui, moi je trouve que tout ça très intéressant parce que c'est vrai que c'est bien que ça soit, entre guillemets, la base qui pousse le sommet, qui à un moment donné, en fournissant des équipes de départements, puis peut-être de ligues, etc., amène, enfin, je ne veux pas dire oblige, parce que, mais amène au niveau national à constituer cette équipe de France fédérale. Alors, pour parler, vous avez également cette saison, alors il y a eu quand même déjà plusieurs tournois, déjà alors qu'on sortait du Covid, donc est-ce que c'était facile dès l'entrée, alors même si c'est souvent les clubs qui organisent, mais le comité, et je pense en soutien, donc c'était pas évident peut-être de démarrer ces tournois. Dès l'automne, et ça a été un succès, la plupart des tournois qui ont été faits au niveau droit.
Oui, ça s'est plutôt bien passé, vous avez raison. On a fait le Delon et on a fait le Giro à Limoux. Ça s'est bien passé. On a fait un premier tournoi qu'on avait fait chez les Catalans, qui était organisé par la Ligue. Le comité avait organisé en mai-juin, deux tournois, de façon à faire jouer tout le monde sur une fin de saison. Mais je trouve que compte tenu du contexte, on peut quand même s'estimer heureux dans la mesure où chez les jeunes, toutes les écoles ont redémarré, dans la mesure où elles ne peuvent pas jouer à 13, chez certaines on les fait jouer à 9, mais dans l'Aude, on a pratiquement toutes les catégories qui jouent à 13, on a encore cette chance-là, mais on a quand même cette année donné la possibilité à tout le monde de jouer à 9. C'est un peu compliqué pour avoir des effectifs partout. Et c'est vrai qu'on se rend compte que même chez les seniors, on l'a vu avec Villeneuve qui n'a pas pu démarrer cette année, c'est pas évident d'avoir des effectifs, des groupes constitués. On voit des équipes qui avaient programmé avant le Covid une quarantaine de joueurs, tournent entre 25 et 30. Donc c'est vrai que cette pandémie a fait beaucoup de mal, et à ralentir les, comment dire, les recrutements ou dans tous les cas les volontés de jouer. Mais par contre, tous les clubs ont fait l'effort de démarrer, ont fait l'effort de s'organiser, que ce soit chez les jeunes ou chez les fédérales, tout le monde a des équipes, et je trouve que nos équipes de l'Aude ont quand même des résultats plutôt intéressants. Donc vous avez raison de le souligner, les tournois étaient un bon point, mais ça veut dire que l'ensemble de l'activité dans le département a quand même été plutôt vivace, et qu'on a quand même des ressources profondes, quoi, parce que c'est compliqué de redémarrer après ce qui s'est passé.
Je
vais donner raison à M. Rodriguez, parce que le rugby à 9, s'il existait vraiment en fédéral, ça aurait sauvé Saint-Laurent de la Cabrerisse, et ça aurait sauvé certainement Villeneuve Minervois.
Peut-être, vous avez sûrement raison d'ailleurs. Ça a été fait chez les jeunes, mais on n'a pas poussé jusqu'aux adultes, mais vous avez sûrement raison. Parce que on a des équipes aujourd'hui, vous prenez Saint-Georges d'Orc qui est dans l'Hérault, qui vient jouer dans l'Aude, hein, où ils n'ont pas une équipe à 13 potentiels, donc les autres équipes s'adaptent et ils jouent à 9. Ça leur permet de continuer à jouer et de pouvoir rester dans un championnat avec un peu de chance. D'accord. Si la fin de la saison, leur effectif grossira.
Pour continuer dans le 9, est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que c'est imaginable, ou c'est de dire, bon, peut-être pas pour la saison actuelle, mais que le comité de l'ordre organise un championnat à 9 sur l'ensemble de la saison, alors qu'il ne serait peut-être pas dans un premier temps repris au niveau de la Ligue ou de la Fédération, mais au moins ce qui permettait à plusieurs, que ce soit au niveau des jeunes ou au niveau parce que moi j'ai l'impression que le 9, il sert un peu en début de saison comme ça, pour mettre en place les clubs en attendant, et après que dès que les championnats dans les séries de U15, U17 et fédérales démarrent, eh bien les clubs qui n'ont pas les moyens de jouer à 13, eh bien, se retrouve un peu perdu dans la nature. Est-ce qu'il ne faudrait pas structurer tout ça pour mettre donc une division à 9, quitte à ce qu'elle soit simplement départementale?
C'est une réflexion. Je pense que ça, ce sera un travail que devra apporter la PD et la fédération, peut-être accompagnée des ligues, mais c'est une réflexion. On le retrouve au niveau des jeunes. La finalité reste quand même, notre sport, c'est le rugby à 13, hein, d'avoir des équipes à 13. Et c'est vrai que tout doit pousser vers ça. C'est une année de transition. Le 9 peut peut-être aider sur des clubs qui n'ont pas un gros effectif à aller vers, à créer un groupe et à faire en sorte que d'autres joueurs viennent se fédérer autour du groupe. Peut-être passer à 13. Ça peut être une porte d'entrée, vous avez raison. Il faut que ce soit manié avec précaution, mais vous avez raison, ça peut être une porte d'entrée. Ce qu'on est en train de faire dans les jeunes écoles, ça le fait déjà, hein, mais bon, vous avez raison, ça peut aller certainement plus haut, peut-être vers les juniors, peut-être vers les fédérales, pourquoi pas. C'est une idée de toute façon à creuser. Hein.
Moi, j'ai une petite idée. Est-ce qu'éventuellement, là, on va s'annoncer qu'en fin d'année, en début d'année, là, les clubs certains clubs vont rester sans jouer pendant 3 semaines, hein, est-ce que ça serait pas l'occasion aux clubs de fédéral de leur demander d'un tournoi, par exemple, à 9, qui pourrait se faire, par exemple, à Villeneuve-Minervois et un à Saint-Laurent-de-la-Cabrisse, de manière pour essayer de relancer ces deux clubs?
On va le faire avec les écoles de rugby, puisqu'on en a déjà parlé avec le président Lounat, et c'est pareil pour Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, où là où j'ai pas encore eu le temps d'avoir le président, mais bon, sur Villeneuve, c'est en prévision. On a, dans notre organisation, au niveau des écoles de rugby, bon, ce que vous êtes en train de décrire, ces plateaux-là, ils sont déjà programmés. On en a déjà un qui est programmé le 23 avril à Villeneuve-Minervois, c'est-à-dire que tous les clubs et toutes les écoles de rugby se déplacent et organisent un tournoi dans un village qui n'a pas, pour cette année, pas d'équipe ou pas d'école de rugby. Donc tout ça, c'est déjà programmé. Par contre, c'est vrai qu'on ne l'a pas poussé, mais l'idée est bonne, hein. C'est à creuser, on ne l'a pas poussé au niveau des seniors. où là on n'est pas allé jusque là. Là, le mettre en place pour les seniors en plateau avec les fédérales, on l'a pas discuté encore, mais c'est une bonne idée, il faut peut-être en parler.
Denis.
Oui, alors la semaine dernière, à votre place, nous avions le président Saez, le coprésident de l'Académie sportive de Carcassonne, qui nous disait que, pour eux, dans tous les cas, chez les petits, à l'école de rugby, ils avaient été surpris de l'affluence qu'ils avaient. Est-ce que vous pouvez nous faire un point un peu global au niveau, vous qui avez une vision sur l'ensemble des écoles de rugby des départements? Est-ce que ça se confirme aussi ailleurs que dans les petites catégories, les premiers pas, les poussées, etc., il y a un engouement des parents et des gamins pour notre rugby?
Ça se passe plutôt bien, compte tenu de la situation. On aurait pu avoir plus peur que ça. On aura dans tous les cas, on ne sera pas sur les effectifs de 2018, mais on n'est pas très loin des effectifs de 2019, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc je trouve que de ce point de vue-là, vous avez raison. Et Carcassonne est un bon exemple. Ils ont une progression significative. On est sur un environnement qui se passe beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu le penser. Et vous avez, c'est extrêmement, ça nous fait plaisir, dans la mesure où la finalité, c'est quand même, pour pouvoir pratiquer notre sport, il faut des jeunes. Il faut des jeunes qui apprennent, il faut des jeunes qui viennent et qui soient curieux et qui découvrent et qui jouent. Donc ça se passe bien, sur les Vignes, ça se passe bien sur Limoux, Carcassonne aussi. On a sur le club de la Grasse, par exemple, on a plus d'une quarantaine de gamins, ce qui est quand même énorme puisque c'est la deuxième année. Donc notre crainte, on est presque short, un peu court au niveau des éducateurs, mais ça arrive là et ça se met en place. Le président Lounas m'a dit qu'il souhaitait sur Villeneuve-Minervois mettre en place pour cette année, dans la mesure où ils n'ont pas de seniors, travailler sur l'école de rugby, ce qui est une bonne chose aussi, ils ont plusieurs gamins. Ça se passe bien également à Ville-Gaillen, où il y a ils ont plusieurs gamins qu'ils ont rapprochés de la MJC en fonction de l'académie en fonction des catégories d'âge. C'est vrai que ça se passe plutôt bien. Et c'est pour ça qu'on envisage de déplacer toutes les écoles de rugby tout au long de l'année. Là, on a parlé de la Grasse, on a parlé de Villeneuve, mais on envisage aussi de les faire jouer en plateau, en tournoi, donc sur le terrain de Belvez, si on a une disponibilité, sur le terrain de Poma, si on a une disponibilité, justement, pour permettre à des gamins qui sont dans le village de venir voir comment ça se pratique, et quitte à leur faire un passeport pour qu'ils puissent, sur la journée, découvrir notre sport. Ce sera aussi une possibilité.
Oui, mais là vous avez répondu par avance à une question, à la question que j'allais vous poser ensuite. Ça serait pas intéressant? Pendant longtemps, on est resté basé exclusivement sur Lézignan, Carcassonne, Limoux pour organiser des grands événements, ce qui est normal parce qu'ils ont les structures pour accueillir les grands tournois. Et j'allais vous demander justement si c'était pas intéressant d'amener nous et vous en tant que comité sur Rubia 13 justement là dans les clubs, dans les petits clubs, etc., pour justement permettre dans les villages, pour permettre justement aux clubs de fédéral ou de NAS qui évoluent dans les territoires inférieurs d'avoir des écoles de rugby. Parce que il y a quelques semaines également, je me souviens qu'on avait eu sur cette antenne, dans cette émission, un responsable, je crois, du Val d'Orbieu à la Grasse, qui nous disait qu'eux, ils avaient, alors peut-être vous allez me le confirmer, ils étaient en discussion avec le Val de Dagne pour voir également s'ils ne pouvaient pas y avoir un rapprochement, au moins pour les gamins, comment ils pouvaient travailler pour permettre justement à des gamins du Val de Dagne et du Val d'Orbieu de se retrouver, de se regrouper.
C'est-à-dire que sur la Grasse, sur les petits de la Grasse, les pitchous de la Grasse, ils ont mis en place un environnement où ils cherchent effectivement, ils ont proposé entre autres à Serviès d'aller faire des entraînements là-bas aussi, afin que les parents et les enfants puissent être à cheval sur les deux. C'est en cours, ils sont en train d'en parler et de voir comment ils pourraient le construire. Hein. Ici, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qu'on a déjà mis en place, ce qu'on a déjà programmé et qu'on met en place. On veut absolument amener le rugby à 13 à travers nos écoles de rugby dans tous les coins où on pourra l'amener. même s'il y a pour le moment, même s'il y a eu un passé, mais s'il n'y a pas de présent, on va tout faire pour qu'il y ait encore un futur, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et tous les clubs, tous les grands clubs, nos clubs majeurs, sont tous, toutes les écoles de rugby adhèrent complètement.
C'est, oui, tout le monde fonctionne de la même façon. Oui, président Renaison retrouve le rugby à 13 avec les jeunes également.
Exactement, on a Bernard Autier qui s'en occupe très très bien, qui fait partie du comité et qui est un relais extraordinaire là-bas. Il soutient également tout ce que, toutes les initiatives de la Grâce. Ils sont tous très proches de Lézignan, qui est le club qui couronne l'ensemble. Parce que la finalité reste quand même sur un territoire précis, défini, d'amener le maximum de gamins vers le club élite.
Bien sûr.
Donc on a tout le monde qui travaille dans le même sens. On a d'ailleurs, je pense que vous l'avez constaté, toutes les équipes se sont organisées par territoire. Et on a à Limoux, Pauma qui réserve de Limoux et Belvèze qui réserve de Pauma. Le schéma est le même sur Lézignan, où on a avec Ferral, c'est avec La Grasse, hein. Enfin le Val-d'Orbieu, le schéma est le même sur Carcassonne. Hein. Tous les territoires se sont organisés justement pour mettre en place ce schéma pyramidal. C'est très bon ça pour les clubs.
Oui, et est-ce puisque alors dont là on parle dans des zones, on va dire, préexistantes du département, hein, et est-ce que on peut imaginer, alors, même si vous faites beaucoup de choses, hein, mais est-ce qu'on pourrait imaginer aussi un travail, alors peut-être plus compliqué, parce qu'il faut trouver des bénévoles qui veulent s'investir, etc., dans des zones où comme la Haute-Vallée par exemple, le Lauragais où il fut un temps Castelnaudary avait, même s'ils n'ont jamais joué en élite, avait le mouvement trésiste existait, le Narbonnais, les Hautes-Corbières. Est-ce que vous pensez, dans l'avenir évidemment, hein, parce que vous ne pouvez pas tout faire à la fois, qu'un jour vous pourrez commencer peut-être secteur après secteur à essayer d'approcher notre rugby de ces régions rurales, mais qui sont importantes dans notre département.
Sincèrement, je ne sais pas. Aujourd'hui, nos priorités, notre priorité, c'est de conforter nos bastions. On a des endroits où on était, où on n'est plus. C'est donc de revenir dans les endroits où on n'est plus. On prend toute la partie Minervois, avec Rieux, avec la Redorte, tout ça, c'est quand même un grand trou dans notre carte très vite, hein. Donc, ce sont des endroits qui, à notre sens, sont prioritaires. On cherchera des solutions pour que les choses se fassent. Les endroits qui sont réellement complètement quinzistes, c'est vrai qu'on a eu Axat à l'époque, hein, qui était un fief trésiste. On a Castel, ça a été un peu moins long, mais il y a eu Castel aussi, comme vous le disiez. C'est déjà, si on arrive à verrouiller, verrouiller n'est pas le mot, puisque de toute façon on ne verrouille jamais rien, mais à bien progresser sur les zones qui sont les nôtres, à récupérer les zones où pour le moment on n'est plus, mais où on devrait être, hein, si on arrive à ça, peut-être qu'après, on aura une vision qui pourra évoluer. Mais aujourd'hui, c'est, à mon sens, peut-être trop tôt, et dans tous les cas, personnellement, je n'ai pas encore fait le chemin jusque-là, quoi.
Ah non, mais bon, je ne
veux pas
je
dire que ça ne se passe pas un jour, mais ça me semble... il faudra du temps, de la patience, il faudra vraiment qu'on soit construit sur d'autres, à d'autres niveaux pour pouvoir le faire.
Bien sûr, moi je ne parlais pas immédiatement et je comprends tout à fait. Vous avez un plan de progression tout à fait qui me paraît tout à fait judicieux. Et c'est vrai, mais commençant à vous connaître à travers les interviews que nous avons fait sur Radio Marseillette et connaissant votre enthousiasme, il ne m'étonnerait pas qu'un jour, peut-être, au moins certains secteurs, bien, vous arriviez à sur certains, je ne dis pas partout, mais peut-être sur cette zone, sur certaines zones, vous y alliez pas. Ça ne m'étonnerait pas.
Vous savez, c'est une question d'opportunité, c'est souvent une question d'homme. Hein. Donc,
mais oui.
Parfois, il y a des contextes qui favorisent les situations. Vous avez raison, on ne sait jamais.
D'accord.
Roger.
Oui, oui, oui. Denis, d'autres questions?
Non, moi, bon, alors, finalement...
Président, ensuite, pour terminer, qu'avez-vous mis en place et quels sont vos projets, à part ceux que vous venez d'expliquer?
Eh bien, écoutez, si dans le moyen terme, puisque là, sur le court terme, on est quand même très, très
chargé. Moyen terme, oui.
Mais si,
oui.
Dans le moyen terme, il y a deux choses qui nous tiennent à cœur. C'est vraiment de continuer à travailler sur sur cet aspect sécurisation des enfants, sécurisation des parents. On va avancer sur les formations. On est en train, entre autres, par exemple, de préparer une formation pour tous les éducateurs avec les pompiers qui vont être amenés à les former sur les premiers secours, du moins la compréhension d'un risque en bord de terrain. On accompagne nos arbitres aussi, puisqu'on participe financièrement à la formation des jeunes, à travers les tenues, à travers tout ça. Donc ça fait partie des projets court-moyen terme qu'il faudra pérenniser. Mais je pense qu'on sera peut-être amené aussi à travailler mieux sur tout ce rugby féminin qui est en train d'émerger, aussi bien chez nos collègues quinzistes que chez nous, et qui mérite, je pense, de l'attention. Donc, je pense que ça peut faire partie de nos projets forts à moyen terme.
Très bien. Président, vous remercie beaucoup.
Eh bon, c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté.
Non. L'antenne se vous est ouverte quand vous voulez. Et si vous avez besoin de vous exprimer sur Radio Marciette, vous serez toujours le bienvenu. Voilà,
vous remercie. C'est un plaisir. Je vous remercie encore. Hein. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux.
Bonne soirée, en tout cas.
Merci de même.
Voilà, merci. Denis, c'était très intéressant. On aura l'occasion de retrouver le président Jacques Rodriguez plus tard. Alors, il y a une petite pause publicitaire, voilà, et après on va continuer la suite de 13 passions.
Ça marche, c'est parti.
La boucherie des Deux Fontaines vous propose ses choix de viande, charcuterie, fromage. Ouvert du lundi au samedi, 8h30, 12h30, 16h, 19h. Le dimanche de 9h à 12h30. Fermé les mercredis et dimanches après-midi. Livraison gratuite à domicile à partir de 25€ d'achat sur un rayon de 15 km autour d'Asie. Plateau de charcuterie et de fromage pour l'apéritif disponible à la vente. Pour les promotions, rendez-vous sur la page Facebook Boucherie des Deux Fontaines. Boucherie des Deux Fontaines à Asie, 04 68 12 10 13. Radio
Marseillette. Le rugby à 13 sur Radio Marseillette vous est présenté par
Bardou Immobilier, une agence immobilière à votre service sur Carcassonne. Pour la gestion, la location ou la vente de vos biens, Betty, Magali et Dominique de l'agence Bardou Immobilier vous accueillent du lundi au samedi au cœur de la Bastide, 44 rue Jean Bringer à Carcassonne. Pour les joindre, 04 68 25 37 63. Bardou Immobilier.
Le rugby à 13 sur Radio Marseillette vous est présenté par
une poissonnerie à Carcassonne, Salinité Banquet, vous propose une grande variété de poissons frais et ses plateaux de fruits de mer à emporter. Fraîcheur et qualité au rendez-vous. 110 avenue du Général Leclerc, 04 68 25 43 85.
Issu de 7 générations de menuisiers dans l'Aude, sur Carcassonne et Ville-Gaillenc, l'ASARL Menuiserie Tiquet et Fils vous propose une réalisation parfaite de qualité pour vos portes, fenêtres, claustrins, armoires et blocs de rangement. Aménagement divers et cuisine, multi-travaux spécifiques, de la conception à la pose. SARL Tiquet et Fils, menuisier aménageur, avenue du Lauragais, 11 600 Ville-Gaillenc, 04 68 77 14 08 et info@tiquet.fr ou site internet www.tiquet.fr.
Le rugby à 13 vous est présenté par
Comptoir des Vins et Terroirs. Dans ce lieu élégant et chaleureux, Stéphanie vous accueille pour vous satisfaire et vous faire partager sa passion des vins du Languedoc. Elle vous les fera découvrir tout en discutant de nos mets régionaux. Elle vous fera apprécier l'esprit de notre région où le vin est naturellement notre rapport à la terre, notre mémoire et notre culture.
La SARL Berger Frères de l'étang de Marseillette vous propose ses fruits, légumes, produits régionaux, ses jus de fruits, confitures, miel, riz, huile, olive, mais aussi viande, charcuterie, fromage et produits laitiers. Pour des produits de qualité au meilleur prix du producteur au consommateur, la bonne adresse sur Carcassonne, SARL Berger Frères, boulevard Denis Papin, zone industrielle La Bourriette à Carcassonne, 04 68 47 68 77, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Brasserie Le Donjon, à quelques pas de l'hôtel du Donjon, en plein cœur de la cité médiévale de Carcassonne, alliant la magie d'un lieu chargé d'histoire et de saveurs de notre terroir. Éric Bivin aura à cœur de vous concocter et de vous servir des mets traditionnels régionaux dans ce relais du pays cathare, à déguster en couple, en famille, en groupe ou en vacances.
Et voilà la suite et fin de ce 13 passions. À vous, Denis et Roger.
Alors Denis, aurais-tu par hasard quelques petites informations internationales, par hasard?
Ah oui, mais le hasard fait bien les choses, et notre ami Thierry, évidemment, lui, c'est pas au hasard, il nous a fourni quelques informations internationales intéressantes, comme d'habitude, comme chaque semaine. Allez, on va partir pour l'Amérique centrale, et le tout petit pays du Salvador, qui est... C'est un petit, tout petit pays qui a été pendant longtemps ravagé par des révolutions, par des guerres...
Les conflits.
Des conflits internes, des guerres civiles. Et aujourd'hui, ce pays est un peu plus stable, on va dire, politiquement. Et donc eh bien, le Salvador devient la 58e nation membre de la Ligue internationale de rugby league, hein, l'IRL. Il devient pour l'instant membre observateur, puisque c'est toujours l'étape, quand on rentre à l'International Rugby League, on devient toujours membre observateur dans un premier temps, avant d'être accueilli éventuellement en tant que membre, mais il y a des étapes à franchir pour devenir membre à part entière. Et donc, la reconnaissance vient après 6 années de travail acharné par des bénévoles, aussi bien sur place au Salvador, mais également en Australie. On sait que la diaspora du Salvador en Australie aussi est assez importante et a travaillé pour arriver à ce résultat. Alors, au niveau du Salvador, les initiales de la Ligue, c'est ARLES, donc ARLES, dispose d'une équipe de direction expérimentée, d'une base de jeu solide pour développer les compétitions nationales pour hommes, femmes et jeunes dans tout le pays et pour concourir sur une base internationale. Alors le président d'ARLES, il s'appelle Hugo Linares, et il a déclaré: notre conseil d'administration basé à Santa Ana est très honoré et privilégié d'avoir été officiellement accepté, reconnu comme membre de la Ligue internationale en tant que nation. Notre association s'engage pour la croissance et la prospérité à long terme du rugby league, bien que nous soyons la plus petite nation des Amériques, hein, donc je vous le disais bien, nous prévoyons d'être l'un de ses concurrents les plus puissants. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec l'IRL. Et le secrétaire général de l'IRL, Dani Kazanjan, a déclaré: je tiens à remercier le conseil d'administration d'Arles. Ils ont des projets passionnants en place et nous nous attendons à ce qu'ils deviennent rapidement chef de file dans la région. Et Arles est également, et de façon cruciale, reconnu par le gouvernement du pays. Voilà, donc c'est essentiel, hein. C'est une des conditions d'ailleurs pour pouvoir intégrer l'International Rugby League. Hein. Et voilà, donc et ça fait partie des étapes à franchir pour devenir membre à part entière. Hein, pour que n'oublions pas que ça permet le fait que le nombre de pays adhérents à l'International Rugby League augmente comme ça permet justement à cette International Rugby League
de pouvoir postuler, de faire partie de l'Association mondiale des fédérations sportives, ce que nous, pour l'instant, l'International Rugby League n'en fait pas partie en tant que membre à part entière. Donc voilà, donc il faut qu'il y ait un maximum de fédérations. Bon, alors les fédérations, en même temps, qui tiennent la route. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des cadres pour que lorsque des pays intègrent, sont accueillis, on va dire, dans l'International Rugby League. Donc ensuite, du côté du Brésil, on est toujours en Amérique, mais là, avec l'immense nation brésilienne, eh bien, la Brésil Rugby League vient de signer un partenariat avec le club qui joue en Ligue 1 en Angleterre, mais le club, c'est le club gallois des North Wales Crusaders Rugby League, qui va aider le Brésil au niveau du 13 fauteuil, au développement du 13 fauteuil dans le pays. Il ne va pas se contenter de fournir du matériel, mais il va y avoir des intervenants qui aideront au développement du 13 fauteuil au Brésil. On vit en Europe, alors sur en Serbie, le quintuple champion de la Ligue serbe de rugby à 13, l'Étoile Rouge de Belgrade, va offrir une opportunité unique à ses supporters de participer à la vie du club avec l'aide de Block Sport. Alors c'est quoi? Donc les supporters pourront Block Sport, c'est un organisme qui est dans la monnaie virtuelle et ça va permettre l'Étoile Rouge de Belgrade va mettre en vente au premier trimestre 2022 pour les fans cette monnaie virtuelle également fournie par Block Sport ça va permettre aux fans de s'intégrer à la vie de ce club et dans un deuxième temps peut-être d'étendre ça à d'autres clubs serbes, voilà, dont le Red Star Belgrade Rugby League qui est membre de la Société Serbe des Sports de l'Étoile Rouge, voilà, et qui a été 5 fois champion de la Ligue Nationale, 4 fois vainqueur de la Coupe, 2 fois champion de la Super Ligue des Balkans. Block Sport, c'est une société sportech qui est basée en Suisse hein, et qui est spécialisée dans la numérisation de la monnaie. Donc, je n'irai pas plus loin là parce que, ça dépasse mes compétences en termes de monnaie virtuelle, mais apparemment, d'après les infos, ça semble être une démarche importante pour le rugby à 13 du côté de la Serbie. Ensuite, on revient aux États-Unis, où l'International Rugby League, dont je parlais tout à l'heure à propos du Salvador, va soutenir l'USA Rugby League, c'est-à-dire pour la gouvernance. On sait qu'au niveau des États-Unis, il y a un problème de gouvernance de rugby league. On était presque dans la scission entre ceux qui veulent constituer un championnat professionnel, ceux qui ne voulaient pas, qui voulaient rester dans les conditions actuelles. Bon, c'est assez compliqué. Dans tous les cas, l'International Rugby League va apporter son soutien pour avoir au niveau des États-Unis, compte tenu que le développement du rugby à 13 aux États-Unis, dans cet énorme pays et ce puissant pays économique, reste un objectif pour la Ligue mondiale de rugby à 13, ils vont essayer d'aider la fédération américaine à mieux se structurer et puis à se ressouder au niveau de la gouvernance pour avancer tout au même rythme, ne pas brûler les étapes, et de fournir aux membres de cette fédération un soutien, je pense que là, pour l'instant, on peut dire, que l'International Rugby League repart un peu les rênes au niveau des États-Unis, au niveau de la gouvernance du rugby à 13 aux États-Unis. pour uniformiser un peu tout ça. Voilà donc les trois ou quatre infos internationales que Thierry et que nous avons, avec l'aide de Thierry, nous avions à vous proposer et nous donnons rendez-vous pour cette rubrique à la prochaine émission pour la suite.
Oui, Denis, je dis, tu as parlé tout à l'heure de la Serbie et de la monnaie virtuelle. Je comprends que ça ne t'intéresse pas, parce que toi, tu as des valises entières blanquées en Suisse, là, de dollars, ouais. d'euros, comme moi, quoi. Bon,
Il faut qu'on puisse toucher, nous. C'est comme pour tout.
De suite.
Pour pouvoir les toucher.
Voilà. Je vais vous donner une petite information. Bon, vous savez, vous pouvez retrouver beaucoup de rubis à 13 dans votre hebdomadaire Le Petit Journal, avec les Échos de l'Aragon, on parle de Carcassonne 13, de Rémi Castille, plein, c'est bourré d'informations. Et puis, Denis, vous aurez comme match, dimanche, par Jean-Claude Bousquet, et quel match? Le feu se le contre Saint-Estève 13 Catalan.
Oui, alors il faut dire que ce week-end va être quand même, compte tenu des conditions climatiques, va être quand même assez
perturbé.
Perturbé, puisqu'il y a deux matchs qui sont reportés. Demain après-midi, en fin d'après-midi, à 19h, il y avait Albi qui devait recevoir le 13 Limoxin. Alors, je pense aussi que du côté d'Albi, il n'y a pas que la météo, mais il y a aussi des joueurs du cas de Covid. Donc, le match entre Albi et le 13 Limoxin est reporté. Et également, celui qui devait opposer Carcassonne 13 Saint-Gaudens, alors, il est carrément reporté, parce que hier soir, puisqu'il devait avoir lieu samedi à 18h30. Donc, hier soir, la première nouvelle, c'était que la mairie de Carcassonne avait demandé que le match ne se déroule pas samedi, mais qu'il se déroule dimanche à 15h. Donc, le match, hier soir, a été annoncé, reporté à dimanche à 15h. Et à la mi-journée aujourd'hui, la mairie de Carcassonne a décidé, parce qu'il n'a pas davantage plus qu'hier au soir, hein. Bon, mais je pense on va dire qu'il va y avoir eu quelques pressions pour que la pelouse ne soit pas abîmée, n'est-ce pas? Même si pourtant c'est pas le rugby à 13 qui abîme la pelouse de Domecq. Enfin, ça c'est une opinion tout à fait personnelle que je vous livre.
Que dans tous les cas, toi.
La mairie a pris la décision que les stades sont fermés, sauf Domeron. Donc il n'était pas question de jouer à Domeron. Le match est reporté à une date ultérieure, peut-être le 19 novembre, on vous le dira, je ne sais pas si ça peut-être en décembre, enfin, on vous dira exactement. Donc ce qui fait qu'il y a deux matchs qui vont se jouer, dimanche, donc tu as dit Roger, à 15h au Moulin, nous aurons un match extrêmement intéressant, que, en effet, Radio Marseillette sera présent avec Jean-Claude Bousquet-Estève, 13 Catalan. On va voir l'équipe catalane qui s'est repris après sa lourde défaite en Avignon, s'est repris face à Albi, mais a pris une mi-temps compliquée, puisqu'ils étaient menés à la mi-temps par les Albigeois 13-12. Albi a eu apparemment quelques blessés en seconde période, et les Catalans se sont imposés confortablement ensuite en seconde mi-temps. Mais là, les Catalans, les jeunes Catalans vont venir passer un test au stade du Moulin, à Lézignan, et ça sera intéressant de suivre cette rencontre avec Jean-Claude. Et puis à la même heure, à 15h à Toulouse, au stade Arnonnet à Toulouse, eh bien nous aurons le Toulouse Olympique Élite, qui reste sur la lourde défaite du stade de Domecq la semaine passée par Carcassonne, qui recevra Villeneuve 13 Rugby League, Villeneuve sur l'autre, ont connu la défaite, même en offrant une belle résistance à domicile, c'était à Villeneuve, contre Olivier-Yannet, dans le duel des verts et blancs et des blancs et verts. Donc Villeneuve a besoin de points, Toulouse a besoin de points, donc là ça va être un match aussi intéressant. Donc après, en élite 2, c'est un week-end... Oui.
Le match Lézignan Saint-Estève 13 Catalan sera commenté en direct et en intégralité par Jean-Claude.
Super.
Il n'y aura pas que des points, il va le commenter de bout à l'autre.
Voilà, donc ben, écoutez, pour ceux qui. Voilà, c'est la preuve que pour ceux qui pensent que Radio Marseillette est devenue Radio Carcassonne et Ville-Gaillard-Aragon, voilà, lorsque nous avons les moyens, nous pouvons vous présenter d'autres matchs que nous faisons régulièrement. Après, il faut pouvoir. C'est un petit message que je passe à certaines personnes qui, sur les réseaux sociaux, critiquent parfois. Eh bien, en tous les cas, si elles m'entendent, eh bien, plutôt que de critiquer, elles peuvent prendre venir. Nous, dans tous les cas, on leur ouvre notre équipe et on leur ouvre notre antenne.
Je vais aller dans ton sens. C'est vrai que l'option, c'est Carcassonne-Ville-Aragon. Parce que pourquoi nos partenaires, eh bien, sont uniquement dans cette région. Nous n'en avons ni de côté de Limoux, ni de côté de Lézignan, qui eux n'ont pas de radio.
Mais malgré tout, Roger, on n'allait jamais laissé tomber.
Ah oui, absolument.
Voilà. Hein, donc c'est vrai qu'on a, été, entre guillemets, privilégié ces deux clubs, on les privilégie, mais il n'empêche que depuis le début de la saison, que ce soit Lézignan ou Limoux, on essaie de faire des points réguliers. On assure des points réguliers. Et là, si Jean-Claude... Après, il faut... Ce Jean-Claude assure toute la retransmission, ce sera avec plaisir.
Oui, je viens de l'avoir au téléphone, là.
D'accord. Et donc, et puis, nous n'oublions pas non plus les clubs comme Ferral, dont nous faisons également des points réguliers. Et puis, encore faut-il qu'on ait des correspondants sur place, Roger, hein,
Ferraz, on l'a, mais dans quelques temps, je pense, voilà. Mais bon, Ferraz, on l'a.
Ce qui confirme que Radio Marseillette est la radio du rugby à 13, voyez-vous.
Voilà, après, il faut que les gens, au lieu de critiquer, il faut qu'ils s'investissent. C'est vrai que malheureusement, nous avions une équipe conséquente il y a quelques saisons, bon... les disparitions de Bernard et Robert qui aujourd'hui doivent être, s'il existe, au paradis du rugby à 13 et doivent commenter des matchs du rugby à 13 au paradis.
Aux Anges.
Ils ne sont plus là. Voilà, ils ne sont plus là malheureusement. Alain a décidé d'arrêter. Bon, et c'est vrai, cette équipe, après, on fait avec les moyens comme on peut. Hein. Nicole aussi,
on assure quand même, Denis.
Non, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, Nicole est malade. Et Elian a la gentillesse d'assurer le remplacement. Bon, c'était pas évident. Il faut savoir que si demain on n'a plus personne en studio, eh bien, on pourra faire ce qu'on voudra. On ne pourra pas faire, hein. Et donc, voilà. Alors, moi, je dis que parfois, on pourrait avoir un outil magnifique. Il suffirait que, moi, je le mets souvent sur les réseaux sociaux. Ben, dans toutes les zones en rugby à 13, vous allez au stade, vous prenez votre téléphone, un stylo, et une feuille de papier, et vous copiez, vous écrivez ce qui se passe, et vous appelez Radio Marseillette en disant, mais là, ici, il y a eu un essai. C'est pas compliqué,
et on ne demande
même pas de passer à la radio.
Hein? Ils peuvent même passer à l'antenne.
Voilà, ils peuvent passer à l'antenne, et s'ils ne souhaitent pas, toi, en l'occurrence, voilà, on peut répercuter. Mais bon, les gens ne se bousculent pas au portillon.
Non.
Voilà, c'est pas bien. Oui.
Comme le retourne, moi, je vais vous donner une information et lancer un appel. La première information, le 5 décembre, Ville-Aragon déplace ses deux équipes avec la Villeneuve-Minervois, la fédérale qui va jouer contre la SC Corbière, et l'élite 2 va jouer contre Villefranche-Ouvrière. Et bon, ça va aider une partie de la recette et va aider l'association de Villeneuve-Minervois qui participe à la lutte contre la mucoviscidose. Voyez, donc, c'est une action. Allez-y, et vous aiderez la lutte contre ce saloperie de maladie. L'appel que je fais, bon, vous savez que, bon, on ne vit pas de l'air du temps, notre position. Oh, donc, si vous pouvez nous aider, faire des petits dons, et même 10 euros, c'est suffisant, hein, et on vous enverra un reçu pour défiscaliser. Et ça nous aidera à changer le matériel. Bon, le commentateur, maintenant, on ne trouvera plus de pièces, mais on ne peut pas le changer. Mais après, bon, les matériels de pour commenter, on pourrait le renouveler grâce à vous. Et vous pouvez envoyer vos dons à Aude 13 Productions, 11 rue de Cavaillès, 11 000 Carcassonne. Je répète, Aude, 13 productions, 11 rue de Cavaillès, 11 000 Carcassonne.
Ou à la radio.
Voilà, ce que, ou à la radio.
Qui transmettra.
Voilà, météo de 13 productions, nous allons envoyer à la radio, qui nous le fera passer, et ça nous aidera. On ne demande pas des milliers et des cents, hein, juste qu'on ait de quoi couvrir les frais, et vous nous rendrez un immense service, et surtout, surtout, vous ne savez pas tellement, nous vous rendrez un grand service au rugby à 13, qui, grâce à Radio Marseillette, vous permet de vivre votre sport sur les ondes. Voilà, j'ai fini.
Et voilà, et si vous êtes, où que vous soyez, en Provence, n'importe où, si demain vous voudrez, vous voulez devenir un correspondant bénévole, c'est ça le terme important, bénévole de Radio Marseillaise, vous aussi, vous nous prenez, vous appelez la radio, vous prenez contact avec nous, avec Radio 13 Productions, avec Radio Marseillaise, et ça se fait facilement si vous devenez correspondant bénévole de Radio Marseillaise, sur n'importe quel stade de rugby à 13.
Et de votre équipe. Et de votre équipe.
Et nous, nous sommes payés, Denis, par les remerciements et les critiques de ceux qui nous écoutent. Voilà.
D'accord. Alors, ben, je vais, avant de quitter, je vais me faire un peu de publicité, Roger, si tu le permets. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon livre, bien, hier, j'ai eu dont Roger se rappelle du titre, le rugby à 13, le rugby de liberté, n'est-ce pas?
Oui, je m'en rappelle, bien sûr, oui.
1933-1941. Hier, j'ai eu le plaisir d'être invité dans l'émission de Carcassonne 13, de Carcassonne 13, justement, et j'ai eu droit, et je remercie les dirigeants de Carcassonne et, évidemment, les animateurs de cette émission, de m'avoir invité, où j'ai pu m'exprimer longuement, aussi bien sur le livre, d'ailleurs, que sur, à travers ma carrière, entre guillemets, sur Radio Marseillette aussi. Donc voilà, donc si vous voulez le voir, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Vous tapez Facebook Carcassonne 13 et vous cherchez la vidéo de Parlons Carcassonne 13. Voilà, donc vous aurez l'occasion. D'ailleurs, il y avait à mes côtés Bastien, j'étais bien, j'avais à mes côtés Bastien Canet, donc le joueur carcassonnais, puis après.
Tu l'as pas ramené là, hein.
Non, ça c'est sûr. Et j'étais très gentil avec lui. Et voilà, donc, et puis il y avait le préparateur physique de cette équipe carcassonnaise. Mais après, voilà, si vous êtes intéressé pour voir ma tronche, c'est pas ça, mais pour avoir un peu plus d'infos sur cette interview assez longue, c'est vrai, eh bien, voilà, je vous invite à le regarder. Voilà, merci Roger.
Alors, Denis, moi je vais ajouter, Denis, à propos de ton livre, c'est important d'avoir ce livre pour deux raisons. La première, il est bourré d'informations, d'anecdotes de l'époque, c'est notre histoire. Hein. Ça, c'est la première utilité. Et la deuxième utilité, il est tellement énorme que vous pouvez assommer votre cambrioleur, là, si vous voulez, pète le cusquette. Quand il se réveillera, il aura mal à la tête par la faute de rugby à 13. Vous rendez compte un petit peu l'utilité de ce livre, de lui.
Oh, alors, si vous avez besoin de caler un meuble aussi, il est impeccable.
Oui, oui.
À quand le deuxième tome?
Ben, écoute, dès que ce problème de Covid me permettra de pouvoir commencer des recherches sans prendre de risques pour ma santé, quoi, parce que c'est vrai aller dans des... aujourd'hui dans des archives c'est compliqué parce que bon on sait qu'à l'intérieur la propagation travailler pendant toute une journée à l'intérieur c'est pas évident à consulter des documents avec le Covid qui se propage et c'est vrai que ma priorité pour l'instant c'est ma santé et celle des miens mais bon dès que le Covid va à force un peu nous laisser un peu de marge de manœuvre on attaquera le deuxième tome. On essaiera de sortir le plus vite possible.
Parfait.
Voilà, merci à tous. Voilà.
Merci.
Mais rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche.
Allez, génial. Oui.
À 15h.
Allez, génial.
On remercie nos auditrices, nos auditeurs. Je remercie Denis, je remercie Eliane. On a débordé un petit peu. Rendez-vous sur 101.3. Vous vivrez en intégralité ce fameux match entre le feu et le Saint-Estève 13 catalan. Voilà, Merci.
Et merci, Elia. Gros bisous à Nicole aussi. Ciao, ciao.
Bonne soirée à vous.
Bisous, Nicole. Au revoir. Bye, bye.